écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 22h ici à Paris, 20h temps universel, l'heure d'un nouveau journal.
Stéphane Genest.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est la une de cette édition. Après les explosions au Liban, le chef du Hezbollah promet un terrible châtiment contre Israël. Hassan Nasrallah s'est exprimé tout à l'heure en ne nommant jamais l'État hébreu. Il reconnaît tout de même que son organisation a reçu un coup sévère. Emmanuel Macron a reçu son Premier ministre Michel Barnier tout à l'heure, qui lui a proposé un gouvernement. Présentation de cette équipe avant dimanche. Voilà ce que fait savoir ce soir Matignon. Au sommaire également, le congrès du Parti travailliste britannique parasité par des cadeaux offerts à Keir Starmer. Situation très tendue en Martinique, l'île est toujours sous couvre-feu et c'est l'événement ce soir, Youssou N'Dour en concert sur RFI. On se donne rendez-vous juste après ce journal.
RFI.
Première intervention publique du chef du Hezbollah après les deux vagues d'attaques contre les appareils de communication de son mouvement au Liban. Pour rappel, les explosions des beepers et des talkie-walkies des membres de la milice chiite ont fait au moins 37 morts et près de 3000 blessés mardi et mercredi. Des attaques attribuées à Israël par Hassan Nasrallah qui a promis une riposte sévère, un châtiment exemplaire sans pour autant préciser ses intentions. Dans son discours, le chef du Hezbollah a également reconnu l'importance de cette attaque subie. Il a parlé de coup dur et sans précédent. Il a aussi assuré qu'Israël n'avait atteint aucun de ses objectifs, Paul Khalife.
Hassan Nasrallah a reconnu que son parti avait reçu un coup douloureux et sans précédent, tout en assurant qu'Israël n'avait atteint aucun de ses objectifs. Le premier objectif était de pousser le Hezbollah à cesser ses attaques contre le nord d'Israël. Une éventualité totalement exclue par le leader chiite tant que la guerre se poursuit à Gaza. Deuxième objectif, provoquer un divorce entre le Hezbollah et sa base populaire en raison des lourdes pertes subies. La réaction des blessés, de leurs familles et des partisans du Hezbollah après les attaques de mardi et mercredi a montré leur attachement à la résistance et leur détermination à poursuivre le combat malgré les sacrifices consentis, a-t-il souligné. Troisième objectif, affaiblir les structures dirigeantes de Hezbollah. Hassan Nasrallah a assuré que la chaîne de commandement et de contrôle demeure intacte, solide et plus soudée que jamais. Le leader chiite a mis au défi Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, de ramener chez eux les habitants du nord d'Israël déplacés par les combats. Le seul moyen d'y parvenir est, encore une fois, selon lui, l'arrêt de la guerre à Gaza. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Et cette situation est à l'ordre du jour d'une réunion ce soir à Paris en présence du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Sont représentés en plus donc de la France et des États-Unis, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Et dans ce contexte, les compagnies aériennes Lufthansa et Air France annoncent prolonger la suspension de leurs vols pour Tel Aviv et Beyrouth. Cela en raison évidemment des tensions dans la région. En France, on n'a jamais été aussi près de la présentation d'un nouveau gouvernement. Michel Barnier a présenté une proposition d'équipe à Emmanuel Macron tout à l'heure. Leur rendez-vous s'est achevé il y a maintenant un peu plus d'une heure. Pas de déclaration officielle, mais une échéance en tout cas. Matignon indique que les nouveaux ministres seront présentés avant dimanche, mais des noms commencent à être connus d'après différentes sources. 38 noms ont été proposés, notamment 7 issus du parti présidentiel, Ensemble pour la République, 3 des Républicains, 2 du Modem, Horizon, l'UDI et les groupes divers gauche et divers droite disposeraient chacun d'un ministre. Et en ce qui concerne les noms maintenant à proprement parler, Laurent Wauquiez, issu des Républicains, a refusé le poste de ministre de l'économie. Et pêle-mêle, Sébastien Lecornu, lui, serait reconduit aux armées. Catherine Vautrin, elle, nommée au territoire. Ou encore Bruno Retailleau, au ministère de l'Intérieur. De la politique également, mais au Royaume-Uni cette fois, puisqu'à quelques jours de l'ouverture du congrès du Parti travailliste, le débat est pollué par une polémique qui concerne le Premier ministre, Keir Starmer. Il aurait accepté des cadeaux depuis 5 ans, cadeaux qui dépassent la valeur de 100 000 euros, Sarah Menaille.
Élu avec triomphe début juillet, Keir Starmer avait promis la transparence, l'exemplarité. Il avait promis de mettre fin à la politique des petits arrangements de ses prédécesseurs conservateurs à Downing Street. Mais voilà que le nouveau Premier ministre britannique se retrouve à son tour dans la tourmente. Lunettes de soleil, places de concert, robes pour Victoria Starmer et places en loge pour assister au match d'Arsenal dont le Premier ministre est un grand fan. Depuis décembre 2019, Starmer et son épouse auraient reçu pour plus de 110 000 euros de cadeaux dont le principal donateur s'appelle Wahid Ali, entrepreneur multimillionnaire et membre de la Chambre des Lords. Alors depuis ces révélations, la presse conservatrice s'en donne à cœur joie. Le tabloïd The Daily Mail surnomme désormais Starmer Sir Freebie, Monsieur Cadeau, et parle de champagne socialiste, comprenez la gauche caviar. Au Royaume-Uni, aujourd'hui, beaucoup dénoncent ce qui est qualifié d'hypocrisie de la part du Premier ministre britannique. Sarah Menei, Londres, RFI.
Les incendies au Portugal en passent d'être maîtrisés. Ils ont détruit plus de 100 000 hectares et ont causé la mort d'au moins 7 personnes. La police portugaise annonce d'ailleurs avoir arrêté 14 personnes soupçonnées d'incendies criminels à la suite de ces dizaines de feux. Et 4 jours après le passage de la tempête Boris en Europe centrale qui a fait une dizaine de victimes et des dégâts pour le moins colossaux, la présidente de la Commission européenne s'est rendue sur place en Pologne. Ursula von der Leyen qui annonce une aide de 10 milliards d'euros pour les pays touchés par ces inondations. L'entrée en vigueur d'un couvre-feu partiel n'a pas empêché la poursuite de violences cette nuit en Martinique. La nuit dernière, les forces de sécurité ont dû affronter des tirs à balles réelles, mais aussi des jets de cocktails Molotov. Il n'y a pas eu de blessés, mais 12 personnes ont été interpellées. Voilà ce qu'indique la préfecture. Les Martiniquais protestent depuis plusieurs jours contre la vie chère. Comme dans les autres départements et régions d'outre-mer, le coût de la vie est en effet bien plus élevé qu'en métropole. De quoi nourrir la colère des habitants. Serge Letchimy est le président du conseil exécutif de Martinique.
La situation est extrêmement tendue. La tension est palpable à la fois dans la société en Martinique, parce qu'il y a des actes de violence, il y a des manifestations. Parallèlement, il y a une revendication qui est partagée par une très grande partie de la population et de lutte contre la vie chère, d'une situation inacceptable, inadmissible. Quand on parle de vie chère ici, c'est véritablement quelque chose qui devient insupportable compte tenu de la situation sociale du pays. Vous savez, vous avez 76 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et le taux de pauvreté touche les 35-40% quand c'est 14% dans l'Hexagone. Bon, ça montre qu'il y a une économie de confort, d'importation massive, une précarisation sous fond de richesse, mais il y a un tissu social extrêmement mauvais, où la précarité domine, où les gens ont du mal. Donc pratiquement 100% des revenus de ceux qui sont dans le RSA passent en alimentation.
Des propos recueillis par Sylvie Kofi pour RFI. La première campagne de vaccination contre le Mpox en Afrique a débuté ce mardi au Rwanda. C'est un porte-parole de l'agence sanitaire de l'Union africaine qui l'indique. Il précise qu'environ 300 personnes à haut risque ont été vaccinées. C'est à présent une annonce qui fait grand bruit dans le secteur du jeu vidéo. Nintendo a porté plainte devant un tribunal de Tokyo contre l'éditeur du jeu Palworld. Le géant japonais du jeu vidéo est l'un des 3 propriétaires de la licence Pokémon et il l'accuse d'avoir plagié via de multiples violations de brevets. Explication signée Nathanaël Vitran.
Un monde ouvert peuplé de créatures à capturer et à collectionner. Sans que Pokémon ne soit jamais cité, Palworld ne fait pas mystère de ses inspirations. L'éditeur japonais Pocket Pair propose toutefois une formule plus irrévérencieuse. Loin de l'univers enfantin de Nintendo, les créatures de Palworld peuvent être réduites en esclavage ou dévorées. La presse et les influenceurs résument rapidement le jeu d'une formule. Palworld, c'est Pokémon sous stéroïdes avec des flingues. Le concept fait mouche et lorsqu'il sort en janvier, le succès est aussi soudain qu'inattendu. Pocket Pair vend 5 millions de son jeu en 3 jours et revendique 25 millions de joueurs un mois plus tard. Beaucoup pointent alors du doigt la ressemblance frappante entre certaines créatures de Palworld et celles de Pokémon. Nintendo, pourtant connu pour être particulièrement procédurier, observait depuis la sortie un silence suspect. L'enjeu est pourtant de taille et Pokémon est de loin la licence la plus lucrative au monde, devant Mickey Mouse, Hello Kitty, Star Wars ou Harry Potter. La plainte de Nintendo ne parle pourtant pas de violation de propriété intellectuelle. Visiblement, Goliath a renoncé à poursuivre David sous cet angle. En revanche, le géant japonais accuse son petit rival de violation de brevet, visant donc les mécaniques du jeu. La justice japonaise tranchera. Pikachu, quick attack!
Nathanaël Vitran pour RFI du football, puisque c'est la dernière série de matchs de la première journée des phases de poule de la Ligue des Champions. Ça joue en ce moment. C'est le début des deuxièmes périodes. Au programme notamment AS Monaco, FC Barcelone, score de 1 partout. Brest reçoit les Autrichiens de Sturm Graz, également 1 partout. L'Atalanta Bergame reçoit Arsenal. Un pénalty vient d'être manqué pour l'Atalanta, 0-0. Et l'Atlético Madrid reçoit le RB Leipzig, 1 partout. Également, c'est la fin de ce journal, vous restez avec nous puisque c'est l'événement ce soir sur RFI, vous le savez, le concert de Youssou N'Dour enregistré pendant les Jeux Olympiques à la Station Afrique, un show exceptionnel que vous fait revivre Claude Issiard. C'est tout de suite sur RFI, très bonne soirée à l'écoute de la Radio du Monde.